en colloque. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
La vertu, tel était le thème de la journée d'études organisée à l'Académie des sciences morales et politiques le 12 décembre 2007 à l'initiative du Centre de recherche en théorie générale du droit. Plusieurs académiciens et juristes sont intervenus, successivement Jacqueline de Romilly, Hélène Carrère-Dancause, Bertrand Saint-Sernin, Jean Tullard, Alain Chartier et Philippe Mallory. Vous trouverez dans la médiathèque de Canal Académie chacune de leurs interventions. Dans cette émission, Canal Académie vous propose d'écouter maintenant Jean Tullard. Historien renommé, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, Jean Tullard, pour lequel le XVIIIe et le XIXe siècle n'ont pas de secret, a évoqué l'anti-vertu, le libertinage, mais aussi le chantre de la vertu Rousseau et encore le culte de la vertu par le vertueux Robespierre. La vertu peut semer la terreur, démonstration par Jean Tullard.
Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, on assiste au triomphe, en littérature et dans les mœurs, du libertinage. Qu'est-ce qu'un libertin ? Crébillon fils en donne une excellente définition. Pour lui, le libertin est l'homme qui se sert de l'amour pour assurer ses obsessions au détriment de sa partenaire. Son plaisir assouvi, il rompt avec la femme séduite et prend la société à témoin de sa victoire. Il s'affranchit des règles morales, il bafoue la vertu. Le symbole en est Valmont, le héros de Choderlos de Laclos, qui séduit et humilie la vertueuse présidente de Tourvel. Le libertin ajoute une dimension métaphysique à son comportement. Il nie Dieu, garant de la morale et de la vertu. Implicite dans Crébillon, cette négation de Dieu se fait explicite chez Sade. Le divin marquis raconte dans Justine les infortunes de la vertu. Après avoir été livrée aux caprices sexuels de ses bourreaux, Justine doit en plus, épreuve redoutable, subir leurs discours violemment athées. Discours souvent empreints de revendications sociales, la révolution va commencer. Ainsi, l'un des tourmenteurs de Justine lui déclare: j'aime à les entendre, ces gens riches, ces gens titrés, ces magistrats, ces prêtres. J'aime à les voir nous prêcher la vertu. Il est bien difficile de se garantir du vol quand on a trois fois plus qu'il ne faut pour vivre. Bien pénible, en vérité, d'être tempérant et sobre quand on est à chaque heure entouré de mets succulents. Ils ont bien du mal à être sincères quand ils ne présentent pour eux aucun intérêt de mentir. Mais nous, Justine, nous, que cette providence barbare dont tu as la folie de faire ton idole a condamné à ramper dans l'humiliation, nous qu'on ne voit qu'avec dédain parce que nous sommes pauvres, qu'on tyrannise parce que nous sommes faibles, tu veux que nous nous défendions du crime ? Quand sa main seule nous ouvre la porte de la vie, que nous ne réservions que le jeûne, l'abattement ou la douleur. Non, non, Justine, non, où cette providence que tu révères n'est faite que pour nos mépris, où ce ne sont point là ses volontés. Ainsi, la vertu ne serait que l'invention d'un Dieu qui n'existe pas. Deux classes dirigeantes qui entendent maintenir, grâce à cette prétendue vertu, les pauvres sous leur suggestion. Le libertinage n'a été que mollement combattu par une censure faible, surtout sous M. de Malesherbes. Certes, Sade fut condamné à mort par le Parlement d'Aix, mais sous l'accusation de sodomie et surtout d'empoisonnement, il avait versé de la cantharide dans le breuvage de certaines prostituées marseillaises. En définitive, il ne fut brûlé qu'en effigie, Il connut la Bastille, toutefois. Mirabeau fut, lui aussi, victime des lettres de cachet pour vie débauchée, mais il y a dans l'ensemble, face au libertinage, une sorte de démission du pouvoir royal. Alors, face aux libertins, s'adresse le chantre de la vertu, Jean-Jacques Rousseau. La nouvelle Héloïse, en 1761, est une sorte d'anti-Justine, l'exaltation de la vie rustique et de ses effets bienfaisants sur les mœurs. Je cite Rousseau, « La simplicité de la vie pastorale et champêtre a toujours quelque chose qui touche. Qu'on regarde les prés couverts de gens qui fanent et chantent, et les troupeaux épars dans l'éloignement, insensiblement on se sent attendrir, sans savoir pourquoi. Bonheur innocent, vie familiale idyllique dans un décor naturel, vertu, telles sont les valeurs exaltées par Rousseau. » Et le même roman contient une longue profession de foi. « Oh, Dieu de paix, Dieu de bonté, c'est toi que j'adore. C'est de toi, je le sens, que je suis l'ouvrage, et j'espère te retrouver au dernier jugement, tel que tu parles à mon cœur durant ma vie. » C'est la réponse à ça. La Révolution libère les libertins quand ils ont été emprisonnés. Sade retrouve ainsi sa liberté en avril 1790. Mirabeau, libéré lui aussi, est élu député aux États généraux. Il devient le conseiller secret du roi, comme Laclos devient le conseiller du duc d'Orléans. Et libéré de la censure, rétif de la Bretonne, noircit de plus en plus de papier. C'est la revanche des libertins. Mais les libertins vont être très vite dépassés par le cours des événements. Leurs lecteurs les surpassent. Rétif de la Bretonne raconte avec effroi, dans ses Nuits de Paris, les atrocités des massacres de septembre. On se fit ouvrir la porte des femmes de la prison de la Force. Toutes tressaillirent de joie, croyant qu'on venait pour les délivrer. On les appelait par rang d'ancienneté. On lisait la cause de la détention. On les faisait sortir de leur cour et elles étaient tuées dans une autre. La Desrues, c'était une empoisonneuse fameuse, fut la quatrième ou la cinquième, et celle qui annonça leur sort à toutes les autres par ses cris horribles, parce que les brigands s'amusèrent à lui faire des indignités. Son corps n'en fut pas exempt après sa mort. Était-ce l'horreur de son crime? Non, mais ils avaient ouï dire qu'elle avait été belle. Évoquera-t-on ici les mariages républicains, imaginés dans la grande tradition de Sade par Carrier à Nantes? Ajoutons-y les bacchanales anti-religieuses des hébertistes à Paris ou de Fouché à Nevers, sans parler de la corruption parlementaire que symbolise Fabre d'Églantine, l'auteur d'Il pleut, il pleut, bergère, et quand il pleut et que les blancs moutons sont rentrés, que font les bergères? Je vous laisse deviner. Mais Fabre d'Églantine ne s'est pas contenté des bergères. Il falsifie le décret supprimant la Compagnie des Indes contre de pots de vin substantiels, assurant ainsi aux administrateurs de la Compagnie des Indes des indemnités qui n'étaient pas prévues dans le décret originel. Un vent de licence semble emporter en 1792 vieux libertins et massacreurs de septembre. Alors, se dresse, au nom de la vertu, Maximilien Robespierre. Il est le disciple, l'héritier, l'admirateur de Rousseau, le pourfendeur des libertins. L'homme est irréprochable. On ne lui connaît aucune maîtresse. Sa frugalité est proverbiale et il méprise les fripons. Il est l'incorruptible. On ne résumera pas sa carrière, mais on présentera simplement la synthèse de ses idées sur les rapports entre la vertu et le politique. Robespierre s'est attaché dès l'Assemblée constituante, mais surtout à la Convention, où son autorité est enfin reconnue, à combattre la contre-révolution qui lui paraît liée à la corruption. Nous n'avons d'autre fanatisme à craindre que celui des hommes immoraux soudoyés par les courses étrangères pour donner à notre révolution le vernis de l'immoralité. À cette contre-révolution, il oppose la vertu civique et la vertu morale. Deux moyens de lutte lui semblent essentiels. D'abord, former le peuple par l'instruction et l'éducation des jeunes en leur montrant la nécessité de la vertu civique. D'autre part, subordonner la politique à la morale crée une légitimité transcendantale fondée sur la reconnaissance de l'immortalité de l'âme et de l'existence de l'être suprême. C'est la vertu morale. L'athéisme, celui de Sade et des libertins, est aristocratique. L'idée d'un grand être qui veille sur l'innocence opprimée et qui punit le crime triomphant est une idée populaire. Le peuple est vertueux. Alors d'abord sont frappés les débauchés, les hommes impurs. Sade est à nouveau incarcéré le 9 décembre 1793. Chauderneau de Laclos connaît un sort identique et ils se retrouvent à la maison de Picpus, on imagine leur dialogue, dans l'attente de la guillotine, dont à Rétif de la Bretonne, ils se cachent. Il faut aussi lutter contre la corruption parlementaire que symbolise Fabre d'Églantine. Le 5 février 1794, dans son grand discours sur les principes de morale et de politique qui doivent guider la Convention nationale dans l'administration intérieure de la République, Robespierre exalte la vertu de la Grèce et de Rome, vertu naturelle au peuple, menacée par les factions, comprenons les partisans du père Duchesne, les hébertistes, et les suppôts de Danton. Si le ressort du gouvernement dans la paix est la vertu, le ressort du gouvernement populaire en révolution est à la fois dans la vertu et dans la terreur. La vertu sans laquelle la terreur est funeste, la terreur sans laquelle la vertu est impuissante. Ce discours est suivi de la chute des hébertistes, partisans de l'athéisme, puis des dantonistes, les plus corrompus sur le plan politique. Le mot « vertu », dit Robespierre, faisait rire Danton. « Il n'y avait de vertu plus solide, affirmait-il, que celle qu'il appliquait toutes les nuits avec sa femme. Son existence insultait la vertu. Que voulez-vous ? Vous qui ne voulez point de vertu pour être heureux. Que voulez-vous, vous qui ne voulez point de terreur contre les méchants? Que voulez-vous, ô vous qui, sans vertu, tournez la terreur contre la liberté? La vertu est consacrée lorsque le 15 avril 1794 est décidé le transfert de Jean-Jacques Rousseau au Panthéon. Le 8 juin est célébrée la fête de l'être suprême, réaction contre l'athéisme des libertins et des hébertistes. Les manifestants furent impressionnés par le côté grandiose de cette fête et surtout pensèrent que l'ère des exécutions massives s'achevait. Ils ne comprirent que quelques jours plus tard, avec la promulgation de la loi du 22 prairial qui accélérait la procédure du tribunal révolutionnaire, qu'au contraire, la terreur s'amplifiait. Elle s'amplifiait parce qu'aux yeux de Robespierre, elle était nécessaire pour le bonheur des hommes. Et elle s'amplifiait parce qu'elle avait désormais une justification, un frein, la vertu. Talien, Barras, Fréron, Fouché et autres représentants en mission n'avaient pas jusque-là tué vertueusement. Ils s'étaient roulés dans le stupre, dans les compromissions. Ils n'avaient pas été des tueurs froids et justes. Ils furent rappelés et promis, après les aristocrates, libertins et les députés corrompus, à l'échafaud. Seuls les terroristes vertueux pouvaient mener à bien le travail nécessaire pour sauver la République. La vision de Robespierre, vous le voyez, et c'est là l'intérêt de cette communication, c'est qu'elle annonce les pires dictatures du XXe siècle et justifie les épurations les plus sanglantes. La vertu, à partir de Robespierre, devient l'alibi des folies les plus atroces. Il y a de bons et de mauvais massacres. C'est la vertu qui les distingue. Et là fut l'erreur des libertins de n'avoir pas été vertueux. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, la vertu fut renversée par les fripons, le neuf Thermidor, preuve que l'histoire est toujours immorale. Le libertinage reprit ses droits. Une nouvelle fois, Sade fut libéré. Comme Laclos, il avait échappé à la guillotine. Il écrivit en 1795 la philosophie dans le boudoir, annonçant un programme à l'opposé de Robespierre, voluptueux de tous les âges et de tous les sexes. C'est à vous seul que j'offre cet ouvrage. N'écoutez que vos passions les plus délicieuses. Restif réfuta Justine dans une anti-Justine encore plus osée. Le nombre des prostituées décupla. Le bal des victimes fit sensation. Muscadin et Merveilleuse multiplièrent les provocations. La vertu et ses sanglants souvenirs semblaient avoir été emportés dans la chute de Robespierre. Survient le coup d'État de Brumaire. C'est le retour à l'ordre moral. Sade est interné, encore une fois, cette fois à Charenton, parmi les fous. Laclos meurt en 1803. Restif finit dans la misère. La vertu triomphe à nouveau. Mais ce n'est plus la vertu révolutionnaire et rousseauiste, c'est la vertu bourgeoise, celle de Madame Boussicault, évoquée tout à l'heure. Sans doute fut-elle moins sanglante, mais elle fut tout aussi hypocrite. On ne regretta pas pour autant le règne de Robespierre. Merci de lui avoir prêté attention ce matin.
Vous venez d'entendre Jean Tullard de l'Académie des sciences morales et politiques s'exprimer lors de la journée d'études consacrée à la vertu. D'autres intervenants, académiciens et invités, Jacqueline de Romilly, Hélène Carrère-Dancause, Bertrand Saint-Cernin, Alain Chartier, Philippe Mallory, ont également été enregistrés. Vous les trouverez dans notre médiathèque. Il suffit de taper le mot « vertu ».